Simon Sroussi, le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris, est en ligne avec nous. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
Simon Sroussi, Benjamin Netanyahu est à Paris demain. Alors, intense activité diplomatique, puisque je viens de dire à l'instant, d'abord, il va inaugurer l'ambassade du Tchad à Tel Aviv, après il prend l'avion, il arrive à Paris. On a l'impression quand même que c'est un peu... Enfin, je veux dire, c'est très rapide. C'est pourquoi aussi vite, alors qu'il est, il a encore même pas fini de régler les problèmes de la constitution de son gouvernement avec la démission d'Arié Dery? C'est quoi? C'est l'illustration que ça va très bien entre Paris et Jérusalem?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Tout d'abord, Benjamin Netanyahu est connu pour l'accent qu'il met sur la diplomatie, sur la politique étrangère. Il a toujours voulu avoir un rôle important sur la scène internationale et sur les affaires moyen-orientales. Il n'est donc pas étonnant qu'il s'y attelle tout de suite, en parallèle même des affaires internes. Pour ce qui est du Tchad, c'est en effet une excellente nouvelle. Un pays dont on a peu parlé, mais qui a signé un accord de reconnaissance d'Israël il y a quelques années, juste avant les accords d'Abraham. C'est un pays musulman situé dans une zone stratégique. C'est donc quelque chose de très important pour nous, qui renforce aussi notre position en Afrique et vis-à-vis de l'Union africaine, où Israël, je le rappelle, a reçu un siège d'observateur. Pour ce qui est de Paris, il y a en effet de très bonnes relations entre la France et Israël ces dernières années. On le sait, le président Macron est proche d'Israël. Il avait reçu très chaleureusement le Premier ministre Lapid. Et il y a aussi des questions internationales très, très importantes, très pressantes, qui sont à l'agenda. Et je pense que les deux leaders vont en discuter.
Alors, Benjamin Netanyahu a donné une interview à CNN. C'est intéressant parce qu'il avait dit... avec mon gouvernement, on parlera moins de l'Ukraine. Et il donne une interview à CNN et c'est tout le contraire. Il dit oui, j'envisage très sérieusement de livrer des armes à l'Ukraine, oui, oui, tout à fait. Et par ailleurs, on agit déjà. On agit dans des moyens militaires, alors j'ai la phrase là sous les yeux, des moyens que je ne détaillerai pas, c'est-à-dire je ne vous dirai pas tout ce qu'on fait, mais contre l'Iran et contre l'alliance stratégique qui est en train de se nouer entre l'Iran et les Russes. On est obligé de penser, Simon Sroussi, que si Netanyahou vient aussi vite à Paris après des déclarations fracassantes comme celle-ci et après la visite d'Anthony Blinken, je vais pas faire de la diplomatie de bar. Mais enfin, je veux dire, le simple bon sens, il vient aussi pour parler de l'Ukraine.
Alors, l'Ukraine, de toute façon, est le sujet principal aujourd'hui diplomatique dans toutes les capitales, au moins européennes et moyen-orientales. Maintenant, ce qu'il faut comprendre de très important, c'est que l'Iran, qui était perçu comme une menace existentielle pour Israël, une menace extrêmement importante pour le reste des pays du Moyen-Orient, n'était pas perçu de la sorte par l'Europe. Depuis quelques mois, alors que l'Iran fournit, d'après ce qu'on peut lire dans la presse, des armes avancées à la Russie, que ces armes sont utilisées sur un théâtre européen, l'Iran, pour la première fois, est perçu par de nombreuses capitales européennes comme une menace directe. Ce n'était pas le cas avant. Et je pense que ça change complètement l'équation moyen-orientale et l'équation stratégique entre Israël et de nombreux pays européens aussi. Et je pense, bien sûr, que ces questions et ce paradigme, ce changement de vision de l'Iran va être présent dans les discussions entre les deux leaders ces jours-ci.
On a donné deux informations cette semaine. La première, c'est donc le bombardement de ce laboratoire, en fait. Au début, on a cru que c'était une usine. Puis finalement, on a vu les images, c'est le laboratoire qui est en face de l'usine. Mais tout ça, c'est du matériel qui ensuite est livré aux Russes et qui a explosé pendant le week-end. C'est pas revendiqué, évidemment, c'est jamais revendiqué. Et tout de suite après, on apprend qu'un convoi d'armes qui passait la frontière entre l'Irak et la Syrie, bombardé également, etc. Alors, je me doute bien qu'on n'est pas là pour avoir des confirmations qu'on n'aura pas de votre part, évidemment. On va poser la question de manière plus générale, si vous le voulez bien. Netanyahou, il va très très vite. C'est vrai que le gouvernement précédent agissait déjà beaucoup, contrairement à tout ce qui a été dit, mais c'est le rôle de l'opposition politique. Mais là, Benjamin Netanyahou, il va vite. Hein. S'il est à Paris, il reçoit Blinken, on entend toutes ces informations non confirmées, on voit que Netanyahou a toujours été habité par ces questions-là, toujours. C'est quelque chose qui, pour lui, c'est une mission pour lui.
Écoutez, comme vous l'avez dit tout d'abord, je ne fais bien sûr absolument aucun commentaire sur des opérations.
Vous ne confirmez pas tout ce que je viens de dire.
Vous demandez. Ou n'aurait pas eu lieu dans la région. Maintenant, je ne sais pas. Je pense que votre analyse est intéressante. Il faut savoir que en Israël, la diplomatie, le sécuritaire, c'est des choses qui sont aussi gérées par des professionnels, par des gens qui ne sont pas politiques, qui restent en place. C'est du travail de longue haleine, c'est un travail diplomatique. De longue haleine, ce sont des dizaines de diplomates à travers le monde qui travaillent depuis des mois, depuis des années sur certains projets. Et les gouvernements passent, mais ces questions restent présentes et restent au cœur du travail des différents diplomates. De la même manière que l'accord sur la frontière maritime avec le Liban, qui a été signé sous Lapid, est un travail qui avait commencé bien avant, des questions qui seront abordées dans les discussions entre les deux leaders dans les jours qui viennent sont aussi des questions qui sont sur la table depuis longtemps et qui font aussi, je le rappelle et c'est important de le dire, consensus très souvent en Israël, peu importe la couleur politique.
Une dernière question. On a bien compris que vous ne confirmez pas les informations qui nous ont été données. On a vu comment ça a été commenté par Netanyahou. On en restera là. Israël peut déjà vendre du gaz ? C'est-à-dire qu'il a les capacités opérationnelles déjà ? C'est déjà à l'export, le gaz israélien ?
Bien sûr.
En France, par exemple ?
En fait, ce qui se passe, c'est assez complexe. Le gaz israélien, il faut savoir que le gaz israélien, on est déjà en pleine production depuis quelques années. Ça métamorphose déjà complètement en interne la production d'énergie en Israël, puisque maintenant, la majorité de l'électricité est produite par des usines à gaz. Donc, on utilise le gaz pour produire notre propre électricité, alors qu'avant, c'était du charbon. Et ensuite, le gaz est aujourd'hui exporté via des pipelines à la Jordanie, l'autorité palestinienne et l'Égypte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, sans rentrer dans les détails très techniques, mais il y a deux moyens d'exporter le gaz. Soit on l'exporte sous forme de gaz dans des pipelines, et pour l'exporter en France, dans ce cas-là, il faudrait un pipeline qui relie Israël à l'Europe, ce qui n'existe pas. Ou alors on l'exporte sous forme liquide, c'est ce qu'on appelle le GNL. Et pour ça, il faut une usine de liquéfaction, qui est quelque chose de très complexe, et la seule qui existe dans la région, elle est en Égypte. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que notre gaz est exporté en Égypte via un pipeline vers cette usine de liquéfaction qui ensuite liquéfie le gaz, mais aussi avec du gaz qui provient d'Égypte, qui produit aussi son propre gaz et d'autres endroits dans la région, et qui est ensuite exporté. Donc au niveau des contrats, Israël a un contrat directement avec l'Égypte, mais une partie du gaz israélien se retrouve ensuite exporté sur le marché, notamment européen, via cette usine de liquéfaction en Égypte. J'espère que j'ai été clair.
Non, c'est très clair. C'est parfaitement clair. Juste un détail, après, une fois que le gaz est liquide, il part en bateau ou il part de nouveau en pipeline ?
Non. Il part en bateau.
En bateau.
Il part en bateau et il arrive vers des ports européens où il y a des usines de gazéfaction qui prennent le gaz liquide, le remettent sous forme gazière et qui repart dans des pipelines. Donc le gaz va arriver à Marseille ou au Havre. Je ne connais pas bien les ports français qui ont ce genre de structure, mais il y en a en France. Et il va être remis sous forme gazière et ensuite transporté via des pipelines vers des usines ou des centrales pour fabriquer de l'électricité et autres.
Ce qui, bien sûr, joue également sur la question ukrainienne, et d'ailleurs sur la question mondiale. Les Turcs voulaient construire un pipeline. Simon Sroussi, merci, c'était passionnant. Non, je ne connaissais pas tous ces détails techniques. Merci, vous qui êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Merci à vous et bonsoir.
Merci, bonne soirée.